enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Vous savez, plus je travaille cet enseignement sur dispensation, et plus je trouve des choses dans la parole que j'ai jamais vues pendant 25 ans de
conversion.
Et franchement, il y a des choses qui m'étonnent de plus en plus. Mais ce que je réalise de plus en plus, c'est, vous savez, frères et sœurs, la vie est courte. Mais l'éternité est sans fin.
Mais
il est incroyable de voir dans la parole de Dieu l'impact que peut avoir notre vie ici sur cette terre par rapport à l'éternité que nous allons passer. C'est absolument phénoménal. C'est absolument phénoménal. Ce soir, on va parler d'un sujet qui s'appelle le tribunal de Christ. Et franchement, quand je méditais ça cet après-midi encore, pourtant c'est des choses sur lesquelles j'ai déjà médité. Franchement, ça me fait quelque chose de parler de ce sujet-là. Parce que c'est vraiment, ça va être un temps vraiment spécial pour nous. Vous allez voir que ce que vous faites ici sur la terre aura un impact éternel. Mais aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est que nous sommes dans notre corps. Et nous sommes tellement concentrés sur le moment présent que nous vivons que nous avons tendance à tellement oublier ce qui va se passer dans l'éternité. Dieu a des choses extraordinaires pour nous. Mais je crois que si, je ne sais pas si on pouvait faire un simple tour dans l'éternité et revenir, je vous garantis on ne serait plus les mêmes. Je pense qu'on changerait tout. On changerait tellement de choses dans nos vies. Parce qu'on se dirait, mais c'est pas possible. Si je fais ça, ça aura telle conséquence. Si je porte tel fruit, ça aura telle conséquence. Etc. Et Dieu nous montre des choses incroyables. Nous en sommes donc dans la doctrine de la fin des temps qu'on appelle eschatologie. Et ce qui veut dire, donc, c'est ces deux mots grecs qui veulent dire la fin des temps. Étude de la fin des temps, précisément. Et en fait, on voit qu'il y a des périodes qui sont contrôlées par la souveraineté de Dieu qui vont se produire. Et ça ne fait pas partie des choses qu'on peut recevoir par la foi, c'est des choses qui nous sont données avec le salut. Que personne ne peut précipiter par sa foi. Que personne ne pourra changer. Quel que soit l'être qui est vivant. Ange, démon, homme, personne ne changera ce que Dieu a prévu par avance. Nous avons vu qu'il y a une espérance qui sont donc les promesses de Dieu dans cette vie dont nous pouvons bénéficier par la foi, mais il y a aussi notre bienheureuse espérance qui sont donc ces événements qui vont se produire et qui seront obligatoires pour tous. Nous avons remarqué qu'il y a dans Éphésiens 3 particulièrement une expression qui parle de dispensation, et nous avons remarqué qu'une dispensation, c'est un temps particulier où Dieu fait une alliance avec les hommes. Par rapport à la façon dont ils vont s'approcher. Il y a 7 dispensations. Nous sommes dans la 6e qui est l'Église. Et la 7e sera le millénium. Nous parlerons du millénium, bien sûr, aussi. Nous parlerons de tout ce qui concerne les événements futurs que Dieu nous a donné de connaître dans sa parole. Nous avons vu que le temps présent où nous sommes, c'est la dispensation de la grâce ou la dispensation du mystère qui a été révélée à nous l'Église. C'est bien sûr le pardon des péchés par le sacrifice de Christ. Et donc il y a toute la doctrine de l'Église qui va avec. Dans cette dispensation de la grâce. C'est ce qui nous est révélé dans les épîtres du Nouveau Testament. Nous avons aussi remarqué que Israël ne voyait pas le temps de l'Église. Et que dans les prophéties que nous trouvons dans l'Ancien Testament, eh bien, il y a des choses qui avaient été révélées à Israël, mais pas le temps de l'Église. Donc ils avaient vu la mort du Messie, la résurrection du Messie, le Messie assis à la droite du Père. Ils avaient entendu parler de la tribulation, ce temps que nous verrons, ces 7 ans particuliers sur la terre, terrible. La dernière bataille avant le retour de Christ, pour eux c'était le premier retour, mais pour nous, nous savons que ça va être le deuxième retour de Christ. Le millénium et les nouveaux cieux, une nouvelle terre. Tout ça, Israël l'avait vu. Par contre, Israël n'avait pas vu l'habitation de Christ en nous, les croyants, le baptême du Saint-Esprit, les 9 dons spirituels pour chacun, à chaque croyant qui sera un sacrificateur, l'enlèvement de l'Église, ça, il ne savait pas. La doctrine de l'Église en tant que corps de Christ, les ministères, les églises locales. Et l'aveuglement donc d'Israël. Ça, ils ne le voyaient pas. Ensuite, nous avons vu la différence entre le premier retour et le deuxième retour de Christ. Nous avons vu que Jésus vient enlever son Église, c'est son premier retour. Et nous avons vu qu'il y a un certain nombre d'événements qui vont se passer par rapport à cet événement de l'enlèvement de l'Église. Nous savons que les morts en Christ, donc qui sont au troisième ciel, vont ressusciter. Nous savons qu'en un clin d'œil aussi, donc ceux qui sont vivants vont être transformés. Et que tous ensemble nous allons être à la rencontre du Seigneur qui va être dans les airs. Ensuite, nous savons que toute l'Église va retourner au troisième ciel dans un lieu tranquille, intouchable, alors que pendant ce temps-là, sur la terre va démarrer ce qu'on appelle la tribulation, un temps horrible où Dieu va envoyer ses jugements sur les hommes. Nous savons que lors de cette résurrection, cette transformation, en tout cas pour les vivants en Christ, nous allons revêtir un corps immortel, c'est-à-dire qu'il ne pourra plus jamais mourir, et aussi un corps incorruptible, c'est-à-dire un corps qui ne pourra plus pécher. Vous savez, c'est très important de savoir ce qui va se passer, quelle est l'image complète de ce que Dieu veut faire et va faire. Parce que ça nous donne une idée sur l'éternité. Nous avons beaucoup d'ignorance sur l'éternité, il faut le dire. Donc à partir du moment où il va y avoir cet événement de l'enlèvement, l'Église va donc être au ciel et le reste, les inconvertis, vont rester sur la terre. Alors, c'est ce que nous avions vu jusqu'à présent. Et on a vu cet événement étonnant qui est l'enlèvement de l'église qui sera sans précédent. Qui va étonner tous ceux qui vont rester. Et c'est vrai que sur la terre, il va y avoir des jugements. Ça va être le début donc, de cette année de tribulation. Mais ça, on en parlera un peu plus tard. Aujourd'hui, on va s'intéresser à nous qui serons au troisième ciel, tous ceux qui ont accepté la grâce de Dieu. Je vous rappelle que les saints de l'Ancien Testament, je vous l'ai montré dans l'identification qui était dans le sein d'Abraham. Lorsque Jésus ressuscite, il les fait naître de nouveau, juste quelques temps après la résurrection, et il va les délivrer. C'est ce que Éphésiens nous montre au chapitre 4 au verset 8, je crois. Il a libéré des captifs, ce sont les saints de l'Ancien Testament qui étaient dans le sein d'Abraham, qui n'étaient pas encore au ciel. Donc l'église est entièrement réunie. La fiancée de Christ doit se préparer, parce qu'on parlera à la fin de la tribulation du mariage de l'épouse avec l'époux. J'espère que vous avez tous entendu parler des noces de l'agneau. Nous en ferons partie. Amen. Amen, amen.
Amen.
Vous verrez, c'est des choses très réjouissantes qui nous attendent. Votre foi n'est pas vaine, frères et sœurs. Je vous dis, si on pouvait rien qu'avoir quelques visions comme Jean a eu. Nous avons le récit de ses visions, c'est vrai.
Ça
doit devenir une espérance vivante en nous. Plus cette espérance est vivante, plus nous pourrons vivre des choses glorieuses sur cette terre. Alors, pendant que cette terre va être jugée pendant 7 ans, nous, pendant ces 7 ans, nous, l'Église, la fiancée pour l'instant de Christ, au troisième ciel, chacun dans son corps ressuscité,
et
bien va passer devant ce que la Bible appelle le tribunal de
Christ.
Révélation inconnue dans l'Ancien Testament, bien sûr.
Regardons
cette expression d'abord, où est-ce qu'on la trouve? Regardons dans 2 Corinthiens 5, verset 10. 2 Corinthiens 5, 10. La Bible va nous parler justement de ce tribunal du Christ. Car il nous faut tous, à nous les chrétiens, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. Verset 10, s'il vous plaît.
Comme l'on voit, mais qu'est-ce que tu as besoin de faire à Christ? Kugira ngo umuntu wese ahabwe ibihwanye n'ico yakoze akiri mu mubiri ari ciza ari kibi.
Alors, ça c'est une expression qu'on va trouver, donc le tribunal de Christ.
Iri ni jambo tubona bakoresha sentare ya Kristo.
Dans Romains 14 verset 10.
Abaroma 14 ku murongo wa 10.
Il y a une expression qui est utilisée aussi.
Iri ni jambo tubona bakoresha.
Romains 14 verset 10.
Abaroma 14 ku murongo wa 10.
Il est dit, mais pourquoi toi juges-tu ton frère? Ou pourquoi méprises-tu ton frère? Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Certaines versions, vous avez peut-être le tribunal de Christ aussi. Donc là encore, on a cet aspect que nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Alors, quand nous serons au ciel avec le Seigneur, l'Église réunie après l'enlèvement, Dieu va faire les comptes avec son Église. C'est ce dont nous allons parler ce soir, parce que nous passerons tous devant le tribunal de
Christ.
Alors ce mot grec qui a été traduit par donc tribunal, c'est en fait un mot grec, c'est le mot bema.
et
qui veut ni plus ni moins dire un endroit un peu élevé auquel on accédait par des marches où il y avait un grand siège, un trône ou siège d'une façon générale. C'était un endroit où on jugeait, où on tranchait des affaires de tous les jours. C'est donc l'expression qui est utilisée ici. Et il faut dire que nous avons besoin d'éclaircissement, parce que quand on commence à parler de tribunal, on se dit, quoi, je vais passer devant les tribunaux, moi, donc ma condamnation est certaine.
Non,
nous allons découvrir quelque chose d'important. Parce qu'on va voir que la Bible nous montre que ce que nous sommes en train de faire
est
porté à notre compte au ciel. À partir du moment, bien sûr, nous faisons des choses pour le Seigneur. Et c'est de ça dont la Bible va parler ici, mais on va le découvrir petit à petit. On va lire un texte dans 1 Corinthiens chapitre 3 et on va découvrir un petit peu quel est le contexte de ce tribunal de Christ, afin qu'on apprenne à correctement discerner l'écriture et non pas à prendre juste une expression en disant mais on va tous passer devant le jugement de Dieu. Pour moi, frère, ce n'est pas verset 1 comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des discordes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas d'une manière humaine? Quand l'un dit « moi je suis de Paul » et l'autre dit « moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon ce que le Seigneur a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un. Et chacun recevra sa propre récompense, selon son labeur, ou selon son travail, si vous préférez, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Chacun dit ouvrier avec Dieu.
Ouvrier avec Dieu.
Nous sommes ouvriers avec Dieu.
Nous sommes ouvriers avec Dieu.
Vous êtes le champ de Dieu, répétez.
Vous êtes le champ de Dieu.
L'édifice ou la construction de Dieu. L'édifice ou la construction de Dieu. Tu peux lire du verset 6 au verset 9, s'il te plaît.
Kuva kuri gatandatu gushika kuri 9 abikorintho ba mbere gice cya gatatu. Ni jewe nateye imbuto, Apollo arazivomera, ariko Imana niyo yazikujije. Nuko zitera ntacamaze. Cyangwa uzivomera atari ntacamaze, atari Imana ikuza. Uzitera n'uzivomera ni bamwe, ariko umuntu wese azogererwa nk'uko yakoze igikorwa ciwe. Kuko Imana ariyo dukorana. Namwe muri ndimiro y'Imana, muri nzu yubakwa n'Imana.
Ensuite, Paul va expliquer, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, ou le don gratuit si vous préférez, un don qui m'a été fait, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu.
Ngo nkuko nahawe ku murongo wa 10 ubuntu n'Imana nashize itanguriro nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge uwundi yubaka ko ariko umuntu wese niyiyubare uko yubaka ko kuko irindi tanguriro atamuntu ashobora kurishira ko atari ryashizweho n'iryo Yesu Kristo ariko iryo tanguriro umuntu niyajyubakisha ku izabu canke ifeza canke ibindi hose bizocishwa mu muriro maze bigezwe.
On va juste faire un petit saut dans 2 Corinthiens 5:10 et on va revenir dans 1 Corinthiens 3. Il est dit, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, on a lu ça tout à l'heure, afin qu'il soit rendu à chacun. afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal.
Avuga ngo twese ngo tutazobora kugaragarizwa imbere y'intebe y'amateka ya Kristo canke sentare ya Kristo kugira ngo umuntu wese ahabwe ibihwanye n'ico yakoze akiri mu mubiri cyabakiza canke kibi.
Dans 1 Corinthiens 3,
avec on ambere gatatu,
on voit bien le contexte ici.
Ah non, tubona rero ingene bizoba bimeze.
On voit bien le champ de Dieu.
Ah turabona neza ngo umurima w'Imana,
l'édifice de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu veut construire.
Inyubako y'Imana.
Et on voit aussi des gens qui servent. Des gens qui font des choses pour le Seigneur. Selon les dons qu'ils ont reçus. Et là, Dieu nous prévient. Tu reçois l'évangile parce que quelqu'un a travaillé dans le champ de Dieu. D'un seul coup, tu as une plante. Cette plante va bien pousser ou mal pousser. Une plante qui pousse mal, c'est une plante qui ne pourra jamais porter de fruits. D'abord, elle n'arrivera jamais à maturité. Et ensuite, elle ne portera donc jamais de fruits corrects, des fruits qu'elle devrait porter. Si Dieu a planté les arbres sur cette terre, les arbres fruitiers, c'est pour qu'ils portent des fruits. Si tu es planté dans le royaume, c'est pour que tu portes du fruit. Ce n'est pas pour que tu sois stérile, soit parce que tu veux recevoir seulement le Seigneur, parce que finalement c'est bien de recevoir Jésus. Le pardon des péchés, c'est gratuit. Ok, je reçois Jésus, c'est bien, ça me plaît, c'est bien, mais je m'en arrête là. Ça, c'est des gens qui construisent et tout va brûler, tout va être détruit. La Bible nous montre clairement que nous allons bâtir sur notre vie spirituelle à partir du moment où nous recevons Christ. Nous avons quelque chose à bâtir. Mais moi, plus j'observe les chrétiens, plus je me dis, mais ils ne réalisent pas qu'ils doivent bâtir. Je vois beaucoup de gens qui veulent servir le Seigneur, qui ont des appels, et je me dis, mais est-ce que vraiment ils réalisent qu'ils doivent bâtir? Des fois, je me remets en question dans ma propre vie en me disant, mais est-ce que tu bâtis vraiment? C'est important de se poser la question. Tu
ne
peux pas passer 5 ans, 10 ans, 15 ans ou 20 ans de ta vie et te dire finalement, j'ai pas bâti grand chose dans ma vie spirituelle, je parle, pour le royaume de Dieu. Je me suis occupé des choses de ce monde, mais je me suis pas occupé du royaume du Seigneur. Vous savez, beaucoup de gens plongent tout le temps leur regard dans les choses du monde. Les chrétiens bébés spirituels, ils sont tellement conscients d'eux-mêmes que souvent ils sont très peu conscients de Dieu et de la tâche que Dieu nous a confiée. Les chrétiens qui commencent à grandir dans le Seigneur, ils commencent de moins en moins à être conscients d'eux-mêmes, mais mettent de plus en plus leurs yeux vers le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Parce que c'est là où Dieu nous veut travailler dans son champ. Les choses légitimes, Dieu ne nous les reprochera jamais. Mais où est ta priorité? La Bible est claire là-dessus. La Bible nous dit clairement que attention comment nous bâtissons. Nous sommes responsables du comment nous allons bâtir notre vie. La parole de Dieu nous responsabilise à 100% sur la façon dont nous allons bâtir sur
Christ.
Et on va parler de ces choses. Parce que ces œuvres-là, c'est ces œuvres qui resteront alors que nous passerons devant le tribunal de Christ. Chacun d'entre nous, allez, dis à ton voisin, chacun t'en fait partie donc. Toi aussi, tu vas en faire partie. Tu dois réaliser une chose. Tu vas passer un jour devant le tribunal de Christ. Amen. Oui, nous allons tous passer. La Bible nous le dit, nous allons tous passer devant le tribunal de
Christ.
Dieu amènera nos œuvres.
Imana izozana ibikorwa twakoze.
Et là,
maze aho rero,
il va envoyer son feu.
Icirungika umuriro wayo.
Et ce qui restera,
ikizosigara,
sera ta récompense.
Nico zosigarana. Kashimwe kawe.
Amen.
Amen.
Donc c'est important de savoir ce qui va rester, ce qui ne restera pas. C'est mieux de se poser la question maintenant plutôt que d'être devant nos œuvres et puis voir le Seigneur dire à un ange, vas-y, mets le feu. Je ferme les yeux. Ça ne sera pas le temps de se poser la question
sur
ce qui va rester. Ça ne sera pas le temps, c'est maintenant qu'il faut se poser la question. Ça ne sera plus le temps puisque nous serons déjà auprès du Seigneur. Le tribunal de
Christ
n'est pas quelque chose qui viendra remettre en question ton salut, hein.
Non,
le salut est une est quelque chose que Dieu nous donne gratuitement. Regardons Hébreux 10
verset 15
à 17. On
ne
parle pas du salut ici, du tout. On ne parle absolument pas du tout du salut. Dieu dit dans sa parole, Hébreux 10, 15 à 17, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste également. C'est après avoir dit, voici l'alliance que je traiterai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur intelligence. Il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités.
Amaze kuvuga ati iri niryo sezerano nzosezerana nabo hanyuma y'iyo minsi ni je wohoraho mbivuze nzoshira ibyagezwe bya mitima yabo na mugenge bwabo kandi niho nzovyandika arongera ati kandi ibyaha byabo no kugabitanya kwabo sinzovyibuka ukundi.
Donc c'est clair, ça c'est acquis.
Urumva kubwivyo twaramaze kubihaha.
Le tribunal de Christ n'est pas là pour remettre en question ton salut ou pas.
Senare ya Kristo nije kukwaka gakiza wahawe.
C'est pas un tribunal pour dire finalement
Steve,
c'est vrai tu as cru en moi, c'est vrai que telle année, tel jour, telle heure tu as reçu mon fils dans ton cœur, c'est vrai que j'ai pardonné tes péchés ce jour-là, mais il faut le dire quand même dans ton parcours, bon, il y a quand même eu des chutes. Le parcours n'est pas parfait. On a tous fait des erreurs. On a tous fait des péchés pendant notre route. On a tous gaffé. C'est clair. Non. Vous ne faites pas partie du lot. C'est clair. Et Dieu ne remettra pas en question la fondation, puisque la fondation ne peut pas s'écrouler. Parce que nous sommes sur le rocher des siècles, inébranlable. Donc, elle est inébranlable, cette fondation. Comment est-ce que Jésus pourrait renverser Jésus dans nos vies? La fondation est là. Mais la Bible nous dit, attention à la manière dont chacun bâtit dessus. Attention par rapport à ce que Dieu va nous confier pendant cette vie, par rapport aux rêves, aux visions que Dieu t'a donné, par rapport aux choses qu'il t'a montré alors que tu étais en train de prier et tu disais, Seigneur, voici ma vie, fais ce que tu veux, Seigneur, je veux te servir, appelle-moi. Fais attention à ce que tu pries. Tu le retrouveras ce jour-là. Parce que pendant ce temps où tu as prié, Dieu va souvent te donner des choses. Il va te dire, voilà ce que j'ai pour toi. Il va te parler dans tes rêves. Il va te donner peut-être des visions. Il va te parler dans ton cœur. Et tu vas savoir ce que tu dois faire. Il va mettre l'appel dans ton cœur. Et Dieu ressortira ce qu'il t'a dit.
Et
c'est par rapport à ce que le Seigneur t'a dit,
à
son plan pour ta vie.
C'est
par rapport à ça que tu auras
uzoronka,
ou que tu n'auras pas de récompense. On va parler de ce que c'est que les récompenses. Mais il faut qu'on parle des œuvres d'abord. On sait l'œuvre de chacun sera manifestée. Reprenons 1 Corinthiens 3. L'œuvre de chacun sera manifestée. Regardez au verset 13, quelque chose de très très important. Très important. Verset 13 1 Corinthiens 3, il est dit: l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera de quelle nature. De quelle nature est l'œuvre de chacun? Œuvre divine ou œuvre humaine? Vous savez, les chrétiens sont très forts pour faire des choses et signer juste après Jésus. Faisons bien attention. Il y a beaucoup de gens qui se méprennent dans ce monde, disant qu'ils font des choses au nom de Jésus, au nom de Dieu. Des chrétiens, je parle de chrétiens des nouveaux, je ne parle pas de fanatiques de religion style musulman ou autre. Non, non, là je parle vraiment des chrétiens nés de nouveau qui font des trucs. Et d'un seul coup, ils pensent que c'est Dieu, ou ils sont persuadés que c'est Dieu. Ils font ça au nom du Seigneur. Toutes sortes de trucs où on met le nom du Seigneur et on dit ça, c'est une œuvre de Dieu. Non, l'œuvre de Dieu sera manifestée réellement, ce qui reste au jour où ce tribunal de récompense aura lieu. Dans 1 Corinthiens 3, 14, il est dit: si l'œuvre bâtie sur quelqu'un, le fondement subsiste, il recevra une récompense. Une récompense, c'est quelque chose que tu vas gagner. Mais tu peux seulement la gagner selon la course que le Seigneur te donne de courir. Ça revient à ce que je viens de vous dire juste quelques instants avant. Tu ne peux seulement recevoir une récompense par rapport à ce que Dieu t'appelle à faire. Tu ne peux pas essayer de courir la course d'un autre, de rentrer dans l'appel de quelqu'un d'autre. Tu es unique, tu as un appel unique, Dieu a un plan unique pour toi, et tu ne peux pas faire le plan de quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas courir la course de quelqu'un d'autre. Tu es placé, planté dans le royaume de Dieu avec ton monde tout autour de toi, et tu dis: Dieu t'a placé là, c'est parce qu'il veut que tu puisses porter du fruit là où tu es. Il veut que tu sois productif là où tu es. Si tu as un environnement hostile, eh bien, si tu connais les lois du royaume de Dieu, et que tu es à la bonne place, à faire la bonne chose, au bon moment, eh bien, tu pourras changer l'atmosphère autour de toi. Si tu sais y faire, tu es appelé à ta course et pas à la course d'un autre. On remarque que si jamais une personne n'a rien laissé quand Dieu envoie son feu, alors cette personne est sauvée, mais elle n'a pas de récompense. Alors On va parler des œuvres. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'il va falloir comprendre par rapport à ces œuvres. Vous savez, il y a des choses qu'il faut savoir faire selon Dieu. Revenons dans Jean chapitre
15.
Le vrai fruit. Le vrai fruit qu'il veut qu'on porte. Ce à quoi Dieu nous appelle. Porter du fruit. Jean chapitre 15. Jésus fait tout un enseignement sur cela. Je vais y passer brièvement, mais quelle richesse cet enseignement. Là encore, le Seigneur prend des images ultra simples, mais d'une grande puissance, qui parle à nos cœurs. Parce que c'est quelque chose vraiment, c'est inviolable, c'est une loi spirituelle inviolable. Le cèpe, c'est un tronc. Les sarments, ce sont des branches. Jésus dit que le cèpe, c'est lui. Les branches, c'est vous et moi. On trouve les fruits, non pas sur un tronc, mais on trouve les fruits sur les branches. Dieu nous appelle à porter du fruit. Jésus explique ça tout simplement. Verset 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Il dit, demeurez en moi comme en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure sur le cep, de même vous non plus, si vous ne demeurez en moi.
Verset
7. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Alors là, je voudrais aborder un sujet par rapport aux fruits. Parce que vous savez, il y a des gens qui portent des fruits mais qui ne se rendent pas compte que certains de leurs fruits qui sont vraiment pourtant du royaume de Dieu ne leur apporteront pas de récompense. Vous avez remarqué une chose sur cette terre. Tant que nous sommes sur cette terre, vous avez remarqué une chose. Tout ce que nous faisons, nous devons lui rendre gloire. Vous avez remarqué ça? C'est clair. Chaque chose que tu fais dans le Seigneur, tu dois toujours faire attention de lui rendre toute la gloire. Tant que tu es sur la terre, il faut que tu saches que toutes les œuvres que tu fais, tous les fruits que tu portes, tu dois automatiquement lui rendre la gloire. Dieu a dit, je ne donnerai ma gloire à aucun autre. Toute personne qui se glorifie quand elle fait des choses dans le Seigneur, la Bible appelle ça de l'orgueil. Si tu te glorifies alors que par exemple tu as prié pour quelqu'un qui a été guéri, pourtant c'est un fruit pour le royaume de Dieu. Alors si tu te glorifies, tu prends de la gloire qui ne t'appartient pas. Tant que tu es dans ce corps, tant que je suis dans ce corps, je dois être d'une immense humilité et refuser de me glorifier. C'est pour ça que Dieu est extrêmement dur vis-à-vis de l'orgueil. Regardons ensemble plusieurs choses. Je veux que vous saisissiez quelque chose d'important. Vous allez voir où je vais vous emmener. Alors, regardons 1 Corinthiens 1:31. Afin que, comme il est écrit, 1 Corinthiens 1:31, c'est le dernier verset du premier chapitre, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Dans le Seigneur. 2 Corinthiens 10, 17. 2 Corinthiens 10, 17. Je vais vous montrer une loi spirituelle ce soir à propos des fruits que vous portez. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 17. Il est dit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Pourquoi ? Il y a deux raisons à cela. La première, c'est que si tu portes des fruits pour le royaume et que tu t'enfles d'orgueil, c'est une occasion de chute et le diable utilisera cela pour te faire chuter. Tu seras éclaté complètement, écarté. Pourquoi ? Parce que tu vas t'enfler d'orgueil et le diable va pouvoir profiter de ça dans ta vie. La deuxième raison, pourquoi quand nous portons du fruit, nous devons rester humbles, et faites bien attention à ce que je vais vous dire là. Parce que quand on fait ça, ce fruit-là n'aura pas de conséquence sur notre récompense le jour du tribunal de Christ. Je répète, si tu fais quelque chose dans le Seigneur, que tu te glorifies, d'abord, ça va être une occasion de chute pour toi. Et deuxième chose, ce que tu as fait, cette œuvre-là, ne t'apportera rien de plus à ta récompense. Regardons ensemble. C'est un principe qui est très important. Donc Dieu d'abord veut nous protéger au travers de l'humilité. Et d'autre part, il veut protéger notre futur. Et c'est son amour. Regardez un petit peu Matthieu 6. Matthieu 6, Jésus nous donne un exemple très simple à propos des gens qui sont remplis d'orgueil. Matthieu 6, Jésus nous montre des gens remplis d'orgueil. Les pharisiens, ils disaient au verset 2, à partir de verset 1. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu, autrement vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Et pratiquer votre justice, en fait, ça va être certaines choses qu'il va nommer par la suite. Que bien sûr, des choses pratiques que les pharisiens faisaient, parce que là, il s'adresse à des gens, Jésus est au début de son ministère, il s'adresse à des gens, donc à ses disciples, et ses disciples sont encore dans la loi de Moïse. Et ça, c'est un parallèle, parce que regardez bien, dans votre paix, auprès de votre Père qui est dans les cieux, la récompense. Verset 2, il dit, donc quand tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Jésus nous dit quelque chose d'important ici. Il nous dit quand nous faisons quelque chose, là il parle d'offrande. Tu donnes à quelqu'un. On transcrit ça sous l'église, au temps de l'église. Si tu fais certaines choses, tu donnes quelque chose, ça peut être une dîme, ça peut être une offrande, ça peut être faire un don à quelqu'un, et que tu commences à te gonfler d'orgueil alors que tu as semé quelque chose dans la vie de quelqu'un ou dans l'œuvre de Dieu d'une manière générale, si tu commences à te montrer et à t'en glorifier, tu es en train de perdre la récompense que tu as alors que tu as obéi à la parole.
gutakaza impera wari kuronka igihe wumvije ijambo ry'Imana.
Donc faisons attention à notre attitude, frères et sœurs.
Alors nous disons kunyifato yacu bene data.
Jésus parle d'abord de l'aumône.
Yesu atangura kuvuga ibyo gutanga.
C'est pour ça qu'après il va dire si tu fais l'aumône, ne sache que ta main droite ne sache pas ce que fait ta main gauche, etc., etc. Fais ça en secret, etc., etc.
Maze munyo atangura kuvuga ati niwabikora uraraba ubigire mwibanga ntegere numwe.
Et ton père te le rendra, c'est du futur ça.
Ngoso ari mwijura bona abi ibihishijwe azoguhera.
Verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Donc en fait, on s'aperçoit d'une chose, c'est que Jésus commence à nommer un certain nombre de choses pratiques au niveau de la vie spirituelle. Mais l'homme qui en retire de l'orgueil en perd sa récompense, en perd l'œuvre alors qu'il est en train de faire quelque chose dans le Seigneur. Là on parle de la prière, on parle de la prière. Jésus donne aussi un autre exemple, je crois, si mes souvenirs sont bons. Oui, verset 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites, ils se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont déjà reçu leur récompense. Si tu veux travailler pour ta récompense, eh bien il faut avoir l'attitude de Colossiens 3. L'orgueil crée deux choses. L'orgueil ouvre des portes au diable et nous vole notre récompense devant le tribunal de
Christ.
La Bible nous dit dans Colossiens 3, regardez bien, 3 versets 23 et 24, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Et verset 24, qu'est-ce que Paul nous dit? Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Servez donc le Seigneur. Donc la Bible nous engage à servir le Seigneur, à travailler pour le royaume. Mais quand nous portons du fruit, attention. Beaucoup de gens commencent, quand ils commencent à porter du fruit, ils s'enorgueillissent. C'est pour ça que Dieu d'ailleurs ne peut pas aller plus loin avec eux dans les dons, parce que c'est une occasion de chute. Combien on voit de chanteurs, de prédicateurs, toutes sortes de gens qui commencent à servir le Seigneur, qui sont doués et qui commencent à se gonfler. Moi ceci, moi cela. Et finalement ils commencent à d'abord avoir des occasions de chute dans leur vie, et d'autre part ils sont en train de perdre leur récompense sur ce qu'ils sont en train de faire. C'est pour ça que Dieu nous demande d'avoir de l'humilité, parce qu'il va y avoir un jour où là tu vas recevoir de la louange. Tu vas recevoir de la louange, mon
cher.
Ça, il faut que tu le saches. Il va y avoir, pendant ce tribunal de Christ, au tribunal de Christ, il va y avoir des choses qui vont se passer. Ces choses qui vont se passer sont très simples. La Bible nous dit que nous allons donc passer devant Christ, c'est sûr. Et il est c'est clair qu'il va y avoir des choses qui vont, comme des livres ouverts où nos œuvres sont écrites. Et avec nos œuvres sont attachées des personnes. Parce que l'objectif du royaume de Dieu, c'est d'influencer avec le royaume de Dieu, la puissance de Dieu, la vie des êtres humains. C'est clair. Nous sommes là pour avoir une influence vis-à-vis des êtres humains. Selon notre appel, selon ce que Dieu met en nous. Et à ce moment-là, lorsque nos œuvres seront devant nous, fais attention de ne pas être seul. Ce qui voudra dire une chose, que tu auras eu un impact zéro avec ce que le Seigneur t'a confié. Je répète, fais attention de ne pas te retrouver seul ce jour-là. Mais qu'autour de toi, il y a des gens qui puissent venir te voir. Tu sais, Steve, merci. Parce que je suis là. Parce qu'un jour tu as ouvert ta bouche. Et pourtant je t'insultais, pourtant je te repoussais. Mais tu as persévéré. Et un jour j'ai accepté Jésus. Tu sais, j'ai accepté Jésus parce qu'un jour tu m'as parlé. Peut-être que tu ne t'en souviens pas. J'ai donné ma vie à Jésus, peut-être dans un autre pays, etc. C'est là où tout ce que nous avons fait, les gens viendront nous voir, dire merci. Mon frère, ma soeur, tu m'as béni avec ce chant. Alors que tu chantais, j'étais en train de louer et adorer le Seigneur, et j'étais en train de voir la gloire de Dieu sur toi. Mon frère, ma soeur, tu m'as exhorté un jour où ça n'allait pas. Et le Seigneur aussi nous découvrira toutes les œuvres que nous avons faites dans la prière, parce qu'il y a des gens qui prient pour nous. Des gens qui ont prié pour nous, frères et sœurs. Moi, je sais que je dois mon salut à des gens qui ont prié alors que j'étais au Canada à faire n'importe quoi de ma vie. Et je sais que je dois mon salut là. Je sais, quelqu'un m'a pris en stop ce jour-là. Et il y avait un petit autocollant sur la voiture. En anglais. C'était dans la partie anglophone du Canada. Où ça disait I believe in Jesus. Et je dis believe, je ne connais pas, Jesus. Je connais, c'est des trucs religieux. C'est pas compliqué. Mais believe, ça veut dire quoi? Et en anglais, avec le peu d'anglais que j'avais à l'époque, elle a essayé de m'expliquer. Et j'ai dit, ah, c'est des histoires de... J'entendais Bible, des trucs comme ça. Je dis, ah, ça y est, c'est des histoires de Bible et machin. Ah, ok, ça va, ça. Continuons. Et je sais que cette dame a prié pour moi.
Après.
Ça, je le sais. Parce qu'après, j'ai rencontré un ex-drogué. À l'époque, j'avais fait 30 000 km en stop. Vous savez comme ça. J'étais un peu fou. Quand j'étais jeune, j'étais un peu fou. J'ai traversé tout le Canada de long en large. Je suis monté jusqu'en Alaska. Je suis redescendu aux États-Unis comme ça. Juste. Et j'ai rencontré des gens, je ne vous dis pas qui.
Mais il y a longtemps.
On ne peut plus faire ça aujourd'hui.
Et
il y avait les policiers américains, des fois, je faisais du stop et sur l'autoroute, d'un seul coup, ils mettaient leur phare comme ça, ils rapprochaient leur voiture, je ne comprenais pas un mot d'anglais. Et ils me racontaient des trucs en anglais et ils me faisaient comprendre, sors de là, tu n'as pas le droit de faire du stop sur les autoroutes. Les grandes autoroutes, vous savez, ça roule vite. Et après, j'ai rencontré cet ancien drogué qui me disait comment Dieu l'avait instantanément délivré de la drogue. Il parlait anglais et comme il a vu que je ne parlais pas anglais, d'un seul coup, il s'est mis à parler canadien. Alors, il m'a raconté comment il avait reçu Jésus dans son cœur. Et alors il m'a raconté comment il n'avait plus rien juste quand il a abandonné la drogue. Il m'a amené dans une réunion dans un hôtel, les hommes d'affaires du plein évangile, où des gens rendaient témoignage. Et j'ai dit, mais ils sont complètement fous ces pauvres gens. Et il voulait que je reste un peu plus longtemps, il m'avait hébergé. Et quand je suis rentré dans son appartement, il m'a dit, tu vois, les canapés qui sont là, c'est Dieu qui me les a donnés. Alors là, je me suis dit, ya. Je suis tombé là-dedans. Et il voulait que je reste un peu plus longtemps. Et je lui ai dit non, merci. Je vais continuer ma route. Et j'ai continué ma route Mais je sais qu'il a prié pour moi.
Je ne
sais pas qui c'est, je ne l'ai jamais revu. Mais je sais qu'un jour je le reverrai.
Et
quand il passera devant moi, devant nous, je dirai, c'est toi. Parce que tu le sauras dans ton esprit. Je dirai, merci. Parce que tu as prié pour moi. Et il y en a encore un autre qui a dû prier pour moi. J'en ai encore rencontré un Canadien quand je m'approchais du... quand je m'approchais de Montréal. Et lui c'est pareil, il m'a pris en stop.
Et
puis, il m'a sorti un Nouveau Testament qui était grand comme ça. Et il sentait, il avait pas l'habitude de témoigner d'ailleurs. Et il m'a dit, tu sais, je vais dire une chose. Ce livre là, tu vois, il m'a beaucoup aidé. Et alors je lui ai demandé qu'est-ce que c'est. Il m'a dit c'est une Bible, ça pourra t'aider, tu peux la garder. Je lui ai dit non, je ne la garderai pas. Et je suis reparti comme j'étais. Mais quelques mois après, j'avais Jésus dans mon cœur, j'étais là en train de donner ma vie au Seigneur. Et vous voyez, on ne sait pas. Il y a plein de choses qu'on a faites. Quand le Seigneur met quelque chose dans notre cœur, un sujet de prière, tu es là, tu pries par rapport à un frère, à une sœur, le jour du tribunal de Christ. Crois-moi, le Seigneur dira. Tu vois, ce jour-là, je t'avais demandé de prier pour un tel. Et tu l'as fait. Ce jour-là, je t'avais demandé de jeûner. Tu l'as fait. Ce jour-là, je t'avais demandé d'aller voir un tel pour lui parler de moi. Tu l'as fait. Ce jour-là, tu as donné telle somme d'argent pour mon œuvre. Et tu l'as fait. Ce jour-là, tu as fait ça. L'autre jour, tu as fait ça. Un jour, tu as ouvert ta maison. Après, tu as fait ceci. Et tu vois, c'est ce qui reste. Et voilà ta récompense. Et que ce jour soit un jour béni, frères et sœurs. Mais j'espère que tu ne seras pas seul. Tu partiras avec le... T'es sauvé, il n'y a aucun problème. Mais tu peux avoir beaucoup plus. Tu peux avoir une belle récompense. Il y a des gens qui sont entourés d'une foule immense et qui sont en train d'applaudir celui qui va recevoir la récompense. Les généraux de Dieu qui ont marché dans ce monde, qui ont porté d'immenses fruits, qui ont eu un impact envers des millions de personnes. Quand ce jour-là arrivera, alors ils seront applaudis, frères. Ils seront applaudis. Ce jour-là, tu seras applaudi. Ce jour-là, on te louera, oui. Ou ce jour-là, tu seras glorifié. Tu recevras ton corps glorifié. Tu auras ton corps ressuscité lorsque Jésus va venir te chercher avec son église. Mais ton corps glorifié, ça dépendra de ta récompense. Ça va dépendre de ta récompense. Donc, ce que tu vas recevoir comme récompense, la façon dont tu vas briller dans le monde futur, la position que tu auras dans le monde futur, dépendra des œuvres que tu auras faites dans le Seigneur, sans avoir pris le moindre brin de gloire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent être honorés dans ce monde, qu'on leur fasse les honneurs, parce qu'ils ont une position ou parce qu'ils ont des grands dons. C'est pour ça que nos vraies œuvres seront mises à la lumière. Personne ne pourra essayer de tricher, c'est pas possible. Donc il y aura peut-être beaucoup de monde autour de toi, mais j'espère qu'il y aura au moins une personne. Sinon, ça veut dire que vraiment ta vie aura été une piètre semence dans ce monde. Donc Dieu nous attend de ce côté-là. Regardons Luc chapitre 6.
Luka igice cya gatandatu.
Jésus parle aussi de récompense.
Yesu aravuga iby'impera kandi.
Oui, il parle de récompense.
Aravuga impera.
Luc chapitre 6.
Luka igice cya gatandatu.
Au verset 17. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une grande foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, c'est-à-dire du sud de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris, et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une puissance sortait de lui et les guérissait tous. Ça, c'est le beau tableau, voir les immenses foules autour de Jésus. Et Jésus leva les yeux sur ses disciples et leur dit : Heureux vous, les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, parce que vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront. Ouh, on va pas aimer ça. Et qu'ils vous chasseront. Yo. Vous insulteront. Oh, non, Seigneur. Et vous rejetteront. Et rejetteront votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez de joie. Parce que votre récompense sera grande. Où ? Votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur père agissait à l'égard des prophètes.
Kuva ku murongo wa 17, amanukana nabo ahagarara ahateze kandi hari ishengero ryinshi ry'abigishwa biwe n'ishengero ryinshi ry'abantu bavuye i Yudaya hose ni Yerusalemu no mu gihugu cyo muri Tiro ni Sidoni hereranye n'ikiyaga kinini baje kumwumva no kukizwa indwara zabo kandi n'abababazwa n'impuhwe muzihumanye barakizwa kandi ishengero ryose rigerageza kumukorako kuko ubushobozi bwamuvamwo bukabakiza bose yuna muri abigishwa biwe amaso arababwira ati hayigwa mwebwe aboro kuko ubwami bw'Imana ari ubwanyu hayigwa mwebwe mushonje none kuko muzo hazwa hahigwa mwebwe murira none kuko muzo twenga muzoba muhigwa abantu ni babanka bakabaca bakabapfuka bakanegura izina ryanyu n'ahari ribi babahoye umwana w'umuntu uwo munsi muze munezerwe mwitere hejuru kuko impera yanyu ari nyinshi mwijuru kuko ariko basekuruza babo bagize abavugishwa n'Imana.
Donc Jésus est clair dans ce passage.
Yesu aratomara neza muri iki gice.
Les moments difficiles que tu passes pour ta foi.
Ibihe bibi bigoye ucamwe kubwo kwizera kwawe.
Sont un trésor inestimable.
Ni ubutunzi bukomeye budasanzwe.
Pendant le tribunal de Christ.
Imbere ya sentare ya Kristo.
Sachons-le, frères et sœurs. Il y a beaucoup de gens qui veulent une petite vie tranquille chrétienne. Je suis désolé de vous le dire. Mais ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ils vivront des choses dures. Mais beaucoup de gens ne veulent pas vivre la souffrance. Beaucoup de gens ne veulent pas se faire insulter à cause de Christ. Beaucoup de gens ne veulent pas avoir d'opposition. Beaucoup de gens ne veulent pas dire non, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que c'est du péché, ça va leur coûter de dire non. Et pourtant, c'est ce qui constitue ta récompense. Ta récompense, tu dois la gagner. Ta récompense, ce sont les œuvres que tu fais. Ce sont les choses que tu subiras pour ta foi. Je
ne
parle pas des choses que tu subis à cause de ta chair. Si tu pèches, si tu te comportes mal, que tu sois corrigé, c'est normal. Il ne faut pas dire « Ah, Seigneur, pourquoi je souffre ?» C'est normal. On parle de la souffrance selon Dieu. Non pas la souffrance pour notre stupidité. Moi, je vois beaucoup de gens souffrir pour leur stupidité. Pour leur chair. Pour des choses qui ne sont pas dignes. Ils se mettent dans des situations catastrophiques. Et après, ils se plaignent. Parce qu'ils ont des souffrances. Parce que les choses ne vont pas. Parce qu'ils ne sortent pas de leurs problèmes. Ça ne t'apportera rien dans le ciel. Ce qui t'apportera quelque chose dans le ciel, c'est ce que tu auras souffert pour le royaume. Alors que tu seras au bon moment, au bon endroit. Mais que des gens vraiment s'opposeront à toi pour ta foi. Je le vois souvent au début quand les gens se convertissent. Certains, on est dans des milieux assez faciles. D'autres, nous sommes dans des milieux beaucoup plus difficiles. Où il y a l'opposition de la famille. Il y a de l'opposition des amis. Il y a de l'opposition au niveau professionnel. Parce qu'il va falloir couper avec tout un tas de choses. Oui, mon frère, ma sœur. Jésus a dit que le chemin ne serait pas large, mais qu'il est étroit. Jésus ne nous promet pas une vie cool, tranquille, où les choses ne nous bousculeront pas. Non, Jésus ne nous promet pas cela. Alors, quelles vont être ces récompenses? Nous avons deux choses qui transparaissent de la parole de Dieu. La première, c'est le degré de gloire qui sera sur nous. 1 Corinthiens 15. Rappelez-vous qu'il y a une différence entre votre corps ressuscité et votre corps glorifié. Jésus est les prémices de la nouvelle création. Il est ressuscité en premier. Il a été glorifié à la droite du Père en deuxième. Jésus a eu la position suprême la plus élevée qui existe. Et il l'a reçu après être ressuscité. Il a été acclamé dans les cieux. Accueilli. De façon incroyable. Et c'est là où il a été glorifié. Nous allons être ressuscités. Mais pendant le tribunal de Christ, notre corps sera glorifié. Donc, un premier aspect de cette récompense nous est sous-entendu, semble-t-il, vraiment dans 1 Corinthiens 15. En tout cas, moi, je ne vois pas d'autres explications. Dans
1
Corinthiens 15, à partir du verset 39, Paul dit: toute chair n'est pas la même chair, mais autre est celle des hommes, autre la chair des animaux, autre la chair des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat, regardez bien cette expression, l'éclat des corps terrestres, autre celui des corps terrestre. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, autre est l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Semé corruptible, on ressuscite incorruptible. Semé méprisable, on ressuscite glorieux. Semé plein de faiblesse, on ressuscite plein de force. Semé corps naturel, on ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Ici, on voit que Paul fait une comparaison.
Aha turabona Paulo agerageza kugereranya.
Corps terrestre.
Umubiri usanzwe w'isi.
Donc les choses de la terre de manière générale, n'importe quoi sur la terre.
Ibintu byo kwisi bishobora gufatika byose mu buryo rusange.
Et ce qu'on peut observer dans le ciel.
Nicyo umuntu ashobora kuraba mu kirere mu ijuru.
Ce qui transparaît dans ce texte, à part la différence du d'abord le terrestre, ensuite le céleste, notre corps tel qu'il est là aujourd'hui, c'est l'image que nous portons aujourd'hui, mais ce que nous porterons comme corps, nous savons c'est un corps céleste, un corps spirituel. Mais là, ce qui est clair, c'est que il dit qu'il y a un éclat différent dans les corps célestes. Et personnellement, je pense réellement que d'après ce qu'on peut comprendre dans ce texte, nous allons plus ou moins être revêtus avec plus ou moins de gloire. Ce qui va bien évidemment, ce qui ira bien évidemment avec notre position dans le royaume futur. Et il y a deux aspects du royaume futur que nous étudierons d'ailleurs. Parce que pendant ces 7 ans où nous recevrons nos récompenses, la terre sera jugée. Il va y avoir des gens, beaucoup de gens qui vont mourir. La terre va être complètement ébranlée. Et à la fin de la tribulation, Jésus va venir pour sa deuxième venue. Et là, il vient pour Israël qui va être quasiment, je veux dire, qui va être complètement désespéré, prêt à être complètement détruit. On étudiera tout ça en détail. Et à la fin de la tribulation, quand Jésus revient, la Bible nous montre que Jésus va régner 1000 ans. Sur des nations, on va expliquer quelles seront ces nations d'après ce qu'on peut comprendre dans la Bible. Et quand il va régner, nous allons régner avec lui, c'est ce que la Bible nous montre. Maintenant, dans un règne, il y a toujours différentes positions. Il y a le roi, mais autour du roi, il y a une cour. Et il y a des sujets qui ont une certaine position. C'est selon ce que tu auras fait que tu auras une position plus ou moins élevée dans le royaume du millénium. À la fin du millénium, nous le verrons, il va y avoir une dernière petite bataille et Jésus va la combattre seul. Et là, Dieu va recréer une nouvelle terre. En fait, il va recréer la surface de la terre. Des nouveaux cieux. Tout ce qui avait été prévu de faire avec Adam et Ève, il le fera avec nous. Mais sans que l'histoire se recommence, puisque nous serons dans un corps incorruptible. Et immortel. Ce qui va nous amener aussi à qu'est un règne avec des positions. Là, ce ne sera plus un règne vis-à-vis des nations, mais ça sera simplement de l'organisation totale d'un immense royaume fait de rachetés, dans lequel il y aura bien évidemment des positions diverses et une gloire diverse qui transparaîtra. Si tu brilles peu, on pourra repérer à peu près ce que tu as fait dans ta vie sur la terre. Si tu brilles immensément, tu seras quelqu'un qui sera facilement repérable. De la gloire de Dieu. Je vous laisse avec ces quelques pensées pour que vous puissiez penser à votre petite vie de tous les jours et que vous changiez beaucoup de choses en vue de l'éternité qui vous attend. Ce jour-là, nous le vivrons, frères et sœurs. Ce sera notre récompense. Mais rappelle-toi ce que j'ai dit. Ne sois pas seul. Tu n'es pas seulement la fondation de Christ qui reste dans ta vie, mais qu'il y ait plein de gens qui viennent te dire. Merci. Que le Seigneur vous bénisse.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.